Les nuits de France Culture.
En 1990, dans le deuxième des entretiens à voix nue qu'il accordait à Cécile Amcy, Jean Horry parlait, en l'encadrant de guillemets, de sa vocation de psychiatre dont il situait l'origine dans son enfance. En citant « Zéro de conduite » de Jean Vigo comme le film qui avait le plus vivement marqué sa prime jeunesse et en évoquant un souvenir très éloquent de son école communale, c'était aussi dans son passé le plus lointain que Jean Horry reconnaissait la position critique qu'il avait conduit, dès le début des années 50, à prendre ses distances avec la psychiatrie traditionnelle en fondant la clinique de Laborde. Une position critique qui se traduisait chez lui par une grande vigilance à l'égard de toute hiérarchie, de toute institution, au sein desquelles le pire danger guettant chaque individu était, selon Jean Horry, celui de se prendre réellement pour le statut qu'on lui reconnaissait. Autrement dit, se prendre, par exemple, pour un général parce qu'on en a le grade. Dans cette émission, où il rappelait notamment qu'on ne devait pas confondre la psychothérapie institutionnelle qui s'appliquait à Laborde avec le courant antipsychiatrique auquel elle s'opposait, Jean Horry disait son étonnement, son émerveillement de chaque jour d'être encore là, à Laborde, auprès de malades mentaux, 40 ans après la création de la clinique. À voix nue, Jean Horry, deuxième des 5 entretiens, diffusé le 25 septembre 1990 sur France Culture.
À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Jean Horry s'entretient avec Cécile Amcy. Deuxième entretien.
Oui, là, vous me parliez de ce désir, pourrait-on dire, de devenir psychiatre. À 2 ans, vous étiez déjà psychiatre, c'est ça ?
C'est une boutade. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est une attitude. Hein. Devenir psychiatre, j'ai jamais pensé devenir psychiatre. Hein. De même, j'ai jamais pensé fonder Laborde. Ça se fait comme ça, disons au hasard, un peu des rencontres.
Oui, mais disons que quand même Laborde, là j'y pensais tout à l'heure, on est en 90, oui. Ça existe depuis 53, donc ça fait déjà presque 40 ans.
Bah oui, c'est devenu une habitude.
Voilà, le hasard devient une habitude, c'est ça?
Voilà.
C'est facile.
Mais des fois encore, je suis surpris de voir. Par exemple, quand le soir, comme ça, 11h du soir à Laborde, sur la pelouse là, je vois cette espèce de château qui est plus ou moins un château, hein, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mais je dis, c'est pas possible, ça. Surprise extraordinaire. Comme au premier jour. Et qu'est-ce que je fais là, alors, hein, devant un truc pareil? Ça reste un état de surprise. Je me suis pas habitué, au fond. Hein. Mais enfin, faut faire avec. Hein. Voilà. Maintenant, alors, depuis l'âge de 2 ans, si on veut, parce que comme je suis le Benjamin, là, on était 3 frères, alors un frère de 4 ans de plus et un autre de 2 ans, moi j'arrive en dernier, et alors la fraternité terreur, comme il dit Sartre, mais je l'ai connu tout petit, hein. Alors, ils s'engueulaient, ils se battaient comme ça des fois, mais d'une façon sauvage, hein, devant moi. Alors, me disant, Si tu le répètes, on te casse la gueule. Il fallait bien que je prenne une attitude. Donc j'étais le témoin. Mais rester le témoin passif, ça va 5 minutes. Alors, si bien qu'au bout d'un certain temps, de témoin, je suis devenu une espèce de médiateur, quoi. J'étais pour l'un et pour l'autre.
Il vous prenait à partie.
Il me prenait à partie, mais en même temps, j'essayais de, disons, d'arranger les choses, de dédramatiser. Et c'est pour ça que je dis, en fin de compte, j'avais une position psychothérapique ou psychiatrique, si on veut, depuis toujours, depuis la plus petite enfance. Avec en même temps une espèce d'exclusion de leurs conflits, tout en étant médiateur.
C'est-à-dire que vous étiez en dehors.
Je ne prenais pas parti. Je restais un peu neutre.
Vous étiez juge, en fait.
C'est beaucoup dit.
C'est l'expression, c'est juge et parti. Parti et juge, juge et parti.
Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Oui, oui. Mais ça a toujours été ça.
En fait, c'est vrai que ça devient une attitude.
Ben oui, ça a toujours été. Mais en même temps, avec un certain retrait, alors là, constitutionnel, disons, vis-à-vis, justement, qui donne cette possibilité d'être toujours en état de surprise, d'être là. Il me semble que c'est important pour accéder, justement, à ce tout autre que représentent, justement, ces gens un peu bizarres, quand même, et d'être de plein pied.
Il y a une qualité que vous citez souvent, qui est la patience.
Oui. Oui, oui. La patience, oui. Une patience, en même temps, ça ne m'empêche pas de... Je crois qu'il faut distinguer l'impulsivité et puis la patience. C'est deux choses différentes. On peut être très patient, on peut être impulsif en même temps. Se mettre en colère. Alors ça, c'est le côté un peu paroxysmal, comme on dit, dans le zondi. Alors certainement, je suis un peu paroxysmal. Ça ferait rire même les gens que je dise un peu. Mais en même temps, d'une patience presque pathologique. Des fois, j'attends 10 ans. Je dis, ça y est quand même.
Avant de quoi?
Avant de constater ou d'intervenir. Alors c'est une patience, et alors j'étais content en même temps de rencontrer un autre personnage alors que qui pour moi joue un rôle majeur. On peut dire que j'ai rencontré Kierkegaard. Et alors dans un des discours édifiants de Kierkegaard, qui est dédié à Saint-Luc. Et alors, il y a une phrase que je déforme toujours, mais qui se résume comme ça, une citation de Saint-Luc, qui dit « Dans la patience, acquire ton âme. » Des fois, d'une façon un peu humoristique, il dit que je dois avoir une âme démesurée à force. « Dans la patience, acquire ton âme. » Alors, il y a toute une chose magnifique de Kierkegaard là-dessus, avec beaucoup d'humour, quoi. Sur cette réflexion. Alors c'est dans ce sens-là que je parle de la patience. Ne pas intervenir comme ça, trop vite.
Ne pas couper.
Ne pas couper, ça dépend, mais il faut savoir couper au moment voulu. Mais ne pas se précipiter, surtout.
Alors vous apparaissez comme quelqu'un d'assez calme, c'est quand même... Ce qu'on
une
peut
apparence.
Dire, une apparence, c'est ce qu'on peut dire de votre apparence. Et finalement, les gens qui vous ont influencé, vous parliez de rencontres à travers des textes, de grandes figures comme celle de Kierkegaard, mais les gens que vous avez rencontrés dans la réalité, qui sont des gens comme Toscaïès, comme Lacan, qui ont été des gens importants dans votre vie, sont des gens, au contraire, eux, très théâtraux. Je sais qu'il y a une autre personne aussi, donc d'origine brésilienne, vous avez rencontré. Je me demandais si c'était aussi quelqu'un de théâtral.
Ah oui, c'est compliqué ça. De dire théâtral, bien sûr qu'on a dit ça de Lacan, tout ce côté un peu surtout quand il faisait ses séminaires, des choses comme ça, à côté, comme ça, de tenir compte du public.
Oui, une mise en scène de soi-même.
Mise en scène.
De soi-même.
Ouais. C'est ça. Ouais.
Quand on écoute François Toscaillès, par exemple, en conférence, il a cette notion de mise en scène de soi-même.
Très différent de Lacan.
Très différente, mais elle est là.
Par exemple, la semaine dernière, moi,
Vous revenez de Saint-Alban ?
Oui, j'ai encore rencontré Toscaillès. Et il me disait, « Oh, ils m'ont fait venir là pour que je fasse le singe. » Toscaillès, c'est pas tellement Raymond Devos. Hein. C'est une autre dimension. Hein. Bien plus... expansive, si on peut dire. Hein.
Une exubérance.
Une exubérance, mais avec en même temps des ouvertures même dans les... Il arrive à dire même des choses qui paraîtraient obscènes, mais ça passe. Hein. Parce que c'est dit dans un contexte comme ça d'ouverture sur autre chose. C'est comme s'il y avait un tremplin permanent qui renvoie à d'autres dimensions. C'est lui qui insiste, par exemple, sur la structure polyphonique dans un contexte institutionnel. C'est vrai qu'il y a une polyphonie. Alors que si on ne le sait pas, on n'entend qu'une voix. Quand en réalité, surtout au niveau de la psychose, quoi, c'est toujours polyphonique. Mais il est lui-même polyphonique. Quand on pense, d'ailleurs, c'est polyphonique, hein, parce que c'est pas linéaire. Mais il arrive à faire passer une polyphonie dans un discours comme ça, qui apparaît comme ça d'exhibition quelquefois. Mais il y a cette dimension comme ça, multiple, c'est Toscaillès. Tandis que Lacan, c'était très très différent.
Vous avez suivi une analyse avec Lacan, ça a été quand même une des rencontres les plus importantes de votre vie, la rencontre avec Lacan.
Ah oui.
Oui.
Oui, c'est sûr.
Alors, vous pouvez-vous en parler simplement? On vous considère comme la personne qui a introduit, enfin, on dit ça comme ça, hein. On dit ça comme ça. La psychanalyse en psychiatrie, c'est redondant comme formulation, justement.
C'est pas vrai, ça.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
L'un ne va pas sans l'autre, c'est ce que vous répondez.
Pour moi, pour moi, en fin de compte, il n'y a pas de psychiatrie. Enfin, la psychiatrie sans psychanalyse, c'est comme si on voulait parler d'un coureur à pied sans jambes. Hein, ou comme ça. En fin de compte, c'est inséparable, c'est intégré. Hein. D'ailleurs, en fin de compte, toute la démarche de Freud, hein, alors il faudrait reprendre les citations précises, mais il disait que la psychanalyse, hein, de tout ce qu'il essayait d'élaborer, comme ça, qui restait en chantier, il était très modeste, Freud, hein. Il disait que ce n'est qu'une introduction, il disait comme ça, à une psychiatrie scientifique. C'est Freud qui disait ça. Il posait donc la psychanalyse comme... non pas comme la base, mais comme une introduction, comme ça, comme quelque chose qui s'intègre forcément. Alors, c'est pour ça que ça m'a toujours choqué de dire quels sont les rapports entre la psychanalyse et la psychiatrie. Ben, je dis, il n'y en a pas. Hein. C'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que la psychiatrie se résume à la psychanalyse. Parce que la psychiatrie, c'est, comme dit Toscaillès, qui reprend une expression en fin de compte traditionnelle, hein, de Kretschmer, c'est multidimensionnel. Il y a aussi bien de l'abord psychanalytique, si on peut dire, mais il y a également tout le côté biologique, le côté alors social, hein, et puis tout le problème posé, disons, par le problème des rapports avec l'État, qui joue un très grand rôle, l'aliénation. Mais l'aliénation foncière qui dépasse largement ce qu'on croit. L'aliénation sociale, quoi. Dans laquelle s'inscrit, alors, au niveau, justement, de ce qu'on appelait tout à l'heure la certaine transcendance, quoi, une seconde aliénation, si on peut appeler ça comme ça, qui est la psychose, quoi. Enfin, la position de base que j'ai toujours défendue, comme ça, pour... Il faudrait en reparler de ça. Que c'est, pour simplifier, je dis, il y a une double aliénation. De vouloir ramasser les deux, de faire un amalgame, en disant l'aliénation de la... D'ailleurs, il faudrait reprendre le terme aliénation. L'aliénation de la schizophrénie, C'est la même que l'aliénation sociale. Enfin, c'était la position combien simpliste de beaucoup d'antipsychiatres. Hein. Changer la société, il n'y aura plus de schizophrène. Hein. Changer la société, personne ne sera déprimé. Comme on voit bien que la dépression des 2000 ans, c'était exactement les mêmes tableaux que maintenant, hein, quand on voit les descriptions. Et la mélancolie décrite par Aristote, c'est la même que maintenant. Hein. Pourtant, les sociétés ont changé. Hein. Mais tout ça pour dire que j'ai pas introduit la psychanalyse dans la psychiatrie. Enfin, c'était déjà là. Hein. Et alors, bien sûr que, par contre, quand on a fait un groupe bien plus tard, avec Toscaïès et puis beaucoup d'autres, une trentaine, ce qu'on a appelé le GT Psy. C'est en 1960, ça a duré 6 ans. On peut dire que c'est moi qui étais, comme je suivais régulièrement le séminaire de Lacan, j'apportais, disons, des provisions, disons, de ce que j'avais recueilli pendant les mois qui précédaient nos réunions. Je disais, voilà où on en est. C'est ce que dit Lacan sur l'angoisse, sur l'identification, sur le transfert. Et puis, c'était devenu un peu une stéréotypie. Mais n'empêche que j'ai introduit quelque chose, là. Et ça, Toscaïès le reconnaît très bien. Bien que lui-même était très au courant de toutes ces choses-là. Mais dans une autre perspective, plus critique. Il est toujours resté un peu à distance de ça.
Alors, il y a eu d'autres influences, d'autres personnes qui avaient des personnalités que vous avez rencontrées.
Il y a une rencontre que j'ai fait à l'âge de 16 ans, qui a marqué énormément tout au point de vue culturel, puis pas simplement au point de vue style, comme ça, d'existence. C'était un Brésilien qui était, il me semble que c'était c'était même avant 16 ans. Je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Qui était, oui, c'était en 36-37. C'est vieux. Hein. Moi, j'avais 12 ans en 1936. Hein.
Vous étiez à vélo déjà?
Oh, toujours.
Toujours.
Bah oui. Eh bien, ce Brésilien, c'est Paulo Emilio de Sales Gomes. C'est un nom très long, ça. Mais au Brésil, on l'appelle Paulo Emilio, parce qu'il est devenu très, très célèbre. Et alors, il était réfugié politique à ce moment-là, parce qu'il avait dû être emprisonné du temps de Vargas. Il y avait toute une histoire, il y a toujours eu des histoires au Brésil. Donc il était venu en France, mais il était, on peut dire pour moi, c'était le sommet de la culture, hein, la culture la plus, non pas éclectique, mais très, très multiple, aussi bien sur le plan, disons, de la littérature, aussi bien française qu'autre, et que sur le plan politique, hein.
Il avait quel âge, lui, à cette époque?
Il avait 6 ans de plus que moi, il avait 22 ans. Bon. Et en même temps, sur le plan, disons, cinématographique, c'est un des plus grands critiques cinématographiques du Brésil, et puis en même temps, à ce moment-là, en France, c'était un ami de Langlois, la Cinémathèque. Et c'est lui qui a reconstitué toute la Cinémathèque du Brésil.
Et de quelle façon est-ce qu'il vous a influencé?
Par son style d'existence et puis sa personnalité, comment dire ça, très ouverte sur énorme sur tout, quoi.
Quels sont les films qui vous ont, ou les cinéastes, ou quels sont les cinéastes qui vous ont le plus impressionné?
Ben, il y en a beaucoup. Mais surtout, on peut dire, le film de base de la psychothérapie institutionnelle, hein, c'est un film de Vigo, hein, c'est Zéro de conduite. Voilà. Alors, Zéro de conduite, pour moi, c'était est capitale. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, bien plus tard, Paolo Emilio a écrit alors tout un livre sur Jean Vigo.
Alors, Zéro de conduite, le film de Jean Vigo, qui serait le...
Alors, Jean Vigo, pourquoi Zéro de conduite ?
Qui serait le film de la...
Parce que ça remet en question...
Psychothérapie.
La hiérarchie.
Institutionnelle.
La hiérarchie traditionnelle. Alors, sans entrer dans le détail, mais il y a... Bon, la hiérarchie traditionnelle, il faut reprendre tout Zéro de conduite, scène par scène, depuis le voyage du train jusqu'à ce... le surveillant là qui se promène et qui perd les enfants dans la rue là, et puis alors ce type là, pète sec, hein, et puis le petit directeur, en plus c'est une caricature en fin de compte de la hiérarchie. Alors parce que la hiérarchie, ça existe aussi bien en psychiatrie qu'en pédagogie, hein. c'est la même critique qu'on peut faire, et que dans les ministères, que dans tous ces machins là tout ce qui est en fin de compte de l'État. Enfin, sans entrer dans trop de détails. Et alors, en même temps, pourquoi j'étais sensibilisé par Zéro de conduite ? Alors là, c'est quelque chose de peut-être plus intime, hein, mais qui a dû jouer un rôle important dans ce qu'on peut appeler la vocation, hein, mais en rigolant, hein, vocation. C'est que ce que je disais tout à l'heure... que dès l'âge de 2-3 ans, j'étais dans une position de médiation, mais en même temps de retrait vis-à-vis des deux frères qui s'engueulaient. Mais quand j'étais à l'école, ça m'a toujours semblé bizarre, moi, l'école, hein, telle qu'elle était. Hein. Mais alors j'étais quand même, on peut dire, 10 de conduite, pour pas avoir d'histoire. 10 de conduite. Mais par contre, j'enregistrais certainement beaucoup de choses. Hein. Et l'événement, on peut dire l'événement, c'est quand j'avais 11 ans, je crois, 11 ans. C'était, alors là, on peut le donner en détail parce que ça va cristalliser quelque chose. C'était au mois de mai, au mois de juin, c'était l'été. Et alors... On rentrait à ce moment-là, on devait sortir à midi, et puis de rentrer à 1h de l'après-midi. On avait juste 1 heure pour aller déjeuner. Et alors ce jour-là, le directeur, monsieur le directeur, qui était un personnage particulièrement représentatif de la hiérarchie, s'était mis dans le battant. Alors, parce que pour rentrer, tout le monde s'engouffrait dans la porte extérieure à deux battants, qui était habituellement ouverte des deux battants, parce que ça faisait beaucoup de monde. Il avait fermé un battant, et il s'était mis le long du battant, donc il fallait passer, frôler son ventre. Alors c'était un monsieur respectable, avec un bouc, comme ça, et puis un ventre un petit peu proéminent, un gilet gris, comme ça, sous la veste, une chaîne de montre, comme ça, enfin très respectable. Mais il fallait que les élèves qui passent là, on avait tous un béret. Enlève le béret, et puis lève la tête en haut, forcément. Bonjour, monsieur le directeur. Alors, ça m'avait semblé ridicule. Bon. Alors, quand mon tour est venu, là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis donc retourné vers lui. Je me souviens plus si j'ai enlevé le béret, mais j'ai levé la tête comme ça. Ça, c'est paroxysmal. Hein. Et j'ai dit, tu me fais chier. Alors, c'était même moi qui étais le...
Mais fort ou...
Ah, très fort.
Très fort.
Très fort. Alors, moi qui avais 10 de conduite, il savait que j'étais l'élève le plus sage. Il a été pris de... plus que de surprise, d'étonnement, il a quitté sa place, là. Hein. Et puis, il est allé chercher mon instituteur en disant, je sais pas ce qui arrive, voici ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui se passe. Enfin, il pouvait même pas me punir, tellement c'était hors du commun. Or, dans le film, le zéro de conduite, il y a l'élève Tabar. Il y a l'élève Tabar, et qui est dans classe, là, avec tous les autres, comme ça. C'est l'élève le plus sage, un peu efféminé, hein, très sage, comme ça, qui ne dit pas un mot. Et puis, il y a cette espèce de gros type de professeur d'histoire naturelle, mais graisseux, tout gras, tout gros, obèse, comme ça, et qui vient, qui a des allures un petit peu, un peu pédérastiques, comme ça, qui vient derrière, qui lui caresse ses cheveux, qui sont un peu longs, élève Tabar. Hein. Et puis alors, à un moment donné, juste après, l'élève Tabar, hein, je me souviens plus exactement du texte, et alors, il se lève, l'élève Tabar dit au prof, monsieur, je vous emmerde. Et c'est ça la psychothérapie institutionnelle, c'est justement ce qui se présente comme critique permanente, qui va pas si loin, mais critique permanente, parce que la hiérarchie telle qu'elle est instituée étouffe complètement toute initiative, toute liberté d'action, enfin de parole. Les espaces du dire, il n'y en a pas dans des structures. Alors bien sûr que ça fait des discussions polémiques. Bon, il y a ça. Donc cette espèce de distance prise concrètement vis-à-vis, disons, des structures établies, qui ne correspondent pas, ces structures établies, à ce qui est nécessaire pour, donner des milieux un peu vivants, comme ça, à des gens qui sont dans un état de misère, déjà par eux-mêmes, ouais, qui n'arrivent pas à se manifester. L'espace du dire, ils n'en ont pas beaucoup. Je dis souvent, ils sont même nulle part, sur le plan phénoménologique. Ils n'ont pas de lieu. Ils n'habitent pas un lieu. Alors si en plus on détruit tout ce qui est possible, et que ça soit concentrationnaire, bon, c'est dans ce sens-là qu'il y a cette...
Donc c'est vous qui disiez merde aux structures psychiatriques existantes.
Oui, oui, on peut dire ça. Mais je suis bien plus poli que ça. Faut être diplomate, là, vis-à-vis des structures existantes. Mais c'est vrai, profondément, c'est ça. Plus autre chose, alors. C'est, si on veut savoir les bases, disons, poétiques, pour moi, en tous les cas. J'avais découvert un hymne à la psychothérapie institutionnelle. Un hymne que je vais faire présenter ici, d'ailleurs, il y a quelques années, là, sur la pelouse. Là. On fait du théâtre ici, souvent. Alors, tous les malades et puis les médecins ont joué, enfin, au bout de 30 années, l'hymne. L'hymne, c'est dans l'opéra de Katsu, de Brecht. Et alors, c'est une musique de Kurt Weill. Alors que je jouais beaucoup, comme ça, au piano, je joue le piano. Et alors, en chantant les trucs de Kurt Weill. Et c'est le moment, dans l'opéra de Katsu, je ne sais pas si vous connaissez bien l'opéra de Katsu, un moment où il y a une espèce de clochard, qui tourne l'orgue de Barbarie, et puis ça s'appelle, je retrouverai le titre, l'inanité de l'effort humain, c'est le titre de ce qu'il dit. Alors l'inanité de l'effort humain, c'est en fin de compte, à mon avis, l'hymne de base, ça devrait, de la psychothérapie institutionnelle. Ça commence: l'homme qui n'est pas bête, je vais pas vous le chanter.
Si, si.
Oh non, l'homme qui n'est pas bête, de sa tête vit sur tout, etc. Qui peut vivre sur une tête, personne, sinon un pou. Et alors après, il y a une seconde complet où l'homme qui n'est pas bête fait des projets, etc. Et puis, en fin de compte, il se fout le doigt dans l'œil.
Patatras.
Il se fout le doigt dans l'œil. Alors ça, pour moi, c'est un hymne de modestie, de pas croire, ne pas s'y croire. La chose la plus folle, plus fou qu'un schizophrène, je dis souvent, c'est le directeur, ou le psychiatre, ou le psychologue, ou l'infirmier, ou je sais pas quoi, qui se prennent pour un directeur, un psychiatre, c'est-à-dire qui se prennent pour le statut qu'on leur a donné. Alors là, c'est une folie souvent incurable. Et en même temps, on peut rien en faire pour l'organisation d'une la gestion d'un hôpital. Se prendre pour un statut. Alors, et c'est souvent comme ça, une sorte d'incarnation de quelque chose. Ils sont rien d'autre que ça. Donc il n'y a rien à faire. C'est pour ça que, excusez, une gymnastique importante comme la gymnastique suédoise de tous les jours, c'est la gymnastique entre rôle, statut, fonction. La fonction psychothérapeutique, surtout quand il s'agit de psychose comme ça, dépasse largement ce qu'on croit être la fonction du médecin. Le médecin ou le psychothérapeute, il n'est là que comme ça, ordonnateur de quelque chose, de tout un champ psychothérapique qui joue d'une façon polyphonique. Et comme il dit Toscaïès, multiréférentiel, très partiel, comme ça. D'où l'organisation, en fin de compte, de tout un milieu. Et on voit bien que c'est souvent par hasard qu'il y a des changements qui se produisent. Mais il faut encore qu'on puisse permettre au hasard de se produire, ce qui est rare, hein.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Jean Houry s'entretenait avec Cécile Amsi. Réalisation Marie-André Arminot.
Le deuxième des 5 entretiens à voix nue avec Jean Houry a été diffusé le 25 septembre 1990 sur France Culture. À suivre.